Bonjour, vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Je suis très heureux d'accueillir en studio à mes côtés Simone Morgenthaler. Ce n'est pas vraiment un livre d'histoire qu'elle nous propose, mais le seul plaisir de la voir dans cette émission m'a convaincu de lui consacrer ce temps pour présenter « Cœur qui bat ». Hymne à la vie, c'est sorti il y a quelques semaines à la Nuée Bleue et ce sera le sujet de la première partie de cette émission. En seconde partie, je retrouverai Aline Voineau pour Mathilde, Juliette, Bonaparte et les autres. Cela vient de sortir, c'est un roman historique aux éditions de Boré dans la collection Vent de l'Histoire. Simone, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Et merci de nous consacrer ce temps pour un ouvrage très personnel, plus encore que les précédents, très intime, qui livre une expérience douloureuse, mais que vous avez en quelque sorte sublimée. Maladie cardiaque.
Exactement, donc c'est effectivement, comme vous dites Jean-François, très intime. J'ai longtemps attendu avant de publier ces textes, parce que je voulais voir si j'étais en mesure aussi de les soumettre au lecteur, au regard du lecteur, et c'est une expérience intime et douloureuse, mais effectivement j'ai découvert par ce problème de cœur, de rythme du cœur, qui soudain m'a rendu un cœur très rebelle et ne me permettait plus d'honorer mes engagements, parce que je ne savais jamais quand le cœur allait devenir un peu fou. Et donc, ça a modifié ma vie, mais j'ai découvert dans cette épreuve toute la beauté de la vie. Et j'avais envie, non pas de raconter une maladie, mais j'avais envie de dire au lecteur, ne soyez pas triste. Dans les épreuves, on peut aussi cueillir bien des beautés et bien de l'espérance.
Alors dans ce livre, il y a bien évidemment la relation de cette maladie, souvent jusqu'à des détails chirurgicaux extrêmement précis, mais il y a surtout l'affirmation de la foi en la vie et d'un rapport, je dirais, singulier que l'on retrouve dans d'autres de vos livres, à la nature.
C'est toujours la nature qui me sauve. Et il est vrai que dans ces épreuves, lorsque je peux sortir, regarder un peu la nature, travailler dans le jardin, toucher la terre, j'ai l'impression que je suis connectée vraiment à moi-même et que là, je trouve ce qui est la justesse dans la vie. Et je me rends compte que l'essentiel, alors, c'est d'être en connexion avec cette nature. C'est elle qui me sauve depuis que je suis petite. J'aime cette nature et j'essaye toujours de l'honorer et elle m'a beaucoup aidée dans cette épreuve avec mon cœur.
Simone, je vais vous proposer un exercice qui est rare dans cette émission. Donner une petite lecture de votre livre, ces pages 140, « Les oiseaux ». Une symphonie. Je précise aux auditeurs que je ne vous ai pas averti de cette demande, mais je pense qu'il est intéressant de goûter à la poésie de votre écriture.
Bien volontiers. Donc ça s'appelle « Les oiseaux, une symphonie ». C'est un des textes qui est dans ce livre « Cœur qui bat ». Il faudrait toujours écouter les oiseaux, ne pas seulement les entendre, mais tendre l'oreille dès le moindre pépiment. Ce n'est pas évident en ville, mais à la campagne, cette musique semble si naturelle qu'on finit par oublier que derrière ces gracieux gazouillis se cachent des frêles corps plumeux aux yeux petits comme des têtes d'épingle. Chacun chante individuellement, l'ensemble devient un concert gracieux et donne une belle symphonie. Je ne voudrais pas être ingrate et les laisser mener ce beau concert sans les écouter réellement, en essayant de détecter dans ces sons familiers le nom de leur propriétaire. Pouillot Véloce, Rouge-Gorge, Roitelet. Je tends l'oreille ce matin pour me laisser investir par ces sons. Le chant du merle avec sa riche gamme gonfle mon cœur d'émotion. Et la mésange charbonnière avec son chant annonciateur de printemps imprime dans ma joie une exaltation juvénile.
Dans Cœur qui bat, Simone, vous évoquez également vos deux grands-mères.
Oui, j'ai eu envie de parler de mes ancêtres parce que quand j'ai eu ces problèmes de cœur, j'ai repensé à elles, elles étaient importantes. Il y avait ma grand-mère paternelle qui vivait au village, qui parlait très peu, qui m'a peu caressée, peu embrassée. En fait, son jeune fils était mort à Toulouse, a été tué à Toulouse. Et
en 1943.
Voilà, et elle a été très affectée par ça et je pense que d'avoir d'un coup des petits qui lui rappeler son enfant qu'on lui avait pris, devait un peu la secouer. Et je me souviens qu'elle avait aussi des problèmes de cœur. À l'époque, on ne nommait pas la fibrillation parce que c'est comme ça qu'on nomme cette affection du rythme cardiaque.
La médecine a fait des progrès.
Elle a fait beaucoup de progrès. Encore que chez moi, il a bien fallu 3 ans avant de donner le nom à cette affection, parce que quand elle m'arrivait la nuit et que je me retrouvais aux urgences, le temps d'y aller et de me brancher, elle avait déjà disparu. Donc il fallait vraiment attendre le bon moment pour connaître ce nom-là. Et je pense que ma grand-mère avait un problème de cœur et je suis presque sûre que l'autre grand-mère de Lorvillers, Marie Barbe, devait vraiment avoir de la fibrillation atriale, comme ma maman a dû en avoir, mais on ne nommait pas ça non plus il y a une trentaine d'années. Et ma marraine Jeanne aussi, mais elle, j'ai pu l'emmener chez le cardiologue il y a une vingtaine d'années et on avait vraiment donné ce nom fibrillation atriale que j'avais noté dans mon journal et j'avais complètement oublié le nom. Récemment, j'ai relu ce journal et je me suis dit, mais j'avais déjà écrit ce nom à l'époque et je ne m'en souvenais plus.
Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission. On se retrouve ensuite, Simone, pour poursuivre la discussion à propos de votre dernier livre, Cœur qui bat, hymne à la vie, publié aux éditions La Nuée Bleue. J'ai choisi une chanteuse qui vous ressemble un peu.
Ah ?
En tout cas, c'est mon sentiment. Marie Laforêt.
Waouh, dites donc, quelle comparaison.
Il a neigé sur Yesterday. Titre de 1979.
Sur Yesterday,
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité, Simone Morgenthaler, pour le livre qu'elle publie aux éditions La Nuée Bleue, Cœur qui bat, hymne à la vie, une expérience intime, celle de la souffrance d'une maladie cardiaque, heureusement, je dirais, soignée par les médecins, après deux interventions chirurgicales quand même, que vous évoquez dans cet ouvrage, qui est aussi une remarquable poésie de la vie. Et dans ce livre, vous racontez votre rencontre avec une figure majeure de la télévision française, Denise Glaser. Seuls les plus âgés d'entre nous se souviennent de l'émission Discorama, mais Denise Glaser, c'était une vedette dans les années 60 en particulier. C'était un impératif lorsqu'on se lançait dans la chanson que d'obtenir un passage dans l'émission de Denise Glaser. Et pourtant, elle a été abandonnée de tous, ou presque.
C'est vrai que quand elle est morte, il y avait très peu de personnes à son enterrement. Il y avait Catherine Lara qui était là. Denise Glaser a fait découvrir tant de personnes dans son émission Discorama. Je voyais de temps en temps cette émission à la télévision. Elle était en noir et blanc. Et je trouvais ce visage tellement parfait qu'elle avait. Et aussi cette voix, un timbre de voix absolument unique. Elle a, par exemple, on se souvient maintenant sur Lina, on peut découvrir les interviews qu'elle faisait aussi bien de Léo Ferré que de Véronique Sanson. Elle était vraiment remarquable. Et puis un jour,
Beaucoup de finesse. De psychologie.
Et elle permettait le silence de s'installer. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, aussi bien en radio qu'en télé. Un silence, c'est une anomalie. Il faut à tout prix meubler le silence. Or, les silences qui s'installaient dans ces questions, les réponses qui n'arrivaient pas toujours rapidement, je trouve que ça a vraiment un rythme qui détend. Et je ne pensais jamais rencontrer Denise Glaser. J'ai su qu'elle avait été virée, parce que dans cette télévision de service public, on n'est jamais très fair-play avec les personnes, même les personnes sensibles. Et je l'ai rencontrée quand j'ai animé la foire de Mulhouse.
C'est en 1982.
82, exactement.
Elle est au soir de sa vie.
Elle va mourir l'année suivante. Et j'ai fait aussi des animations parce que j'ai été toute ma vie un peu saltimbanque. Vous savez, j'étais pas embauchée. Je travaillais au cachet, comme on dit, à l'émission, en pouvant être licenciée dès que l'émission était finie. Et donc, j'acceptais aussi, à l'époque, je retapais une maison à Colombage, et donc j'acceptais des animations dans les magasins ou dans les foires.
C'est ce qu'on appelle des ménages dans le milieu.
C'est ça. Et je me suis retrouvée à la foire de Mulhouse à animer. J'avais été invitée à faire ça par STélé Flash, qui est un magazine de télévision qui n'existe plus, mais qui était à l'époque beaucoup lu, qui était fabriqué par Laurette Lourenço à Haguenau. Et donc j'ai animé pendant plusieurs jours là-bas au mois de juin. J'étais sur scène et je devais accueillir pas mal de monde connu. Il y avait les frères Bogdanov aussi, qui étaient beaux comme des dieux. Ils avaient
une émission. Je les ai très bien connus.
Ah oui, aussi, ils étaient merveilleux.
J'ai eu l'occasion de déjeuner avec eux dans les années 90, oui. À Nancy.
Ah oui.
À l'occasion du livre sur la place.
Ils étaient très beaux et très
intelligents. Je les ai retrouvés quelques années plus tard à Strasbourg. Je les ai présentés à la librairie Kléber.
Ah bah super. Et puis Denise Glaser aussi, elle était mon invitée. Et à un moment, en fait, ce qui l'intéressait, c'était de parler avec un astrologue qui avait planté sa guérite juste à côté du podium. Et elle voulait savoir ce qu'il adviendrait de sa vie. Elle savait qu'elle était malade. Elle avait toujours le rêve de refaire de la télévision. Et donc, elle allait voir cet astrologue longuement. Et nous faisions du bruit parce que vous savez comment c'est. Il faut vraiment, sur une scène, faire du bruit. Le son devait vraiment être costaud. Et elle sortait parfois un peu épuisée de cette guérite avec l'astrologue en disant « Est-ce que vous pourriez pas baisser le son ?» Ce qu'on essayait de faire, mais très vite, les organisateurs de la foire voulaient qu'on mette de la gomme. Alors on remontait le son et un soir, je suis allée boire un verre avec elle et on a parlé. J'ai trouvé ce moment tellement délicieux et je l'évoque dans les livres parce que quand j'ai été à l'hôpital et que j'étais dans mon lit, en fait, j'ai repensé à elle, à son sourire. J'ai revu sur Internet une de ses interventions et je trouvais que quand elle souriait, ça me faisait du bien. C'est comme si ça faisait sourire mon cœur.
Denise Glaser, qui est morte dans la misère à Valenciennes.
C'est ça, elle est morte dans la misère. Elle a été enterrée au cimetière juif et peu de personnes étaient présentes. Je sais que Catherine Lara était celle qui l'a encore honorée jusqu'au bout. Et c'est dommage.
Je crois que Barbara
était là aussi, oui, c'est ça.
Autre personnage que vous évoquez, j'ai eu beaucoup de tendresse pour cette figure importante de la vie spirituelle et culturelle de notre région. C'était aussi mon ami, un ami partagé, le pape.
L'abbé Neggert.
René-Xavier Neggert.
Oui.
Il m'arrive d'aller me recueillir à Ipsheim devant sa tombe, à l'arrière de l'église.
Et je ne passe pas devant Ipsheim sans penser à lui. Je pense très souvent à lui, à l'abbé Neggert. C'était un ami. On se voyait assez régulièrement. On s'écrivait aussi. Je trouvais qu'il apportait énormément. Il a fait tellement de bien autour de lui. Et il avait le verbe très beau, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Et quand je le rencontrais, bien, on discutait un peu de tout, un peu de rien. Parfois, il m'invitait aussi à une conférence qu'il organisait à Ipsheim. C'est vrai que j'aurais même eu envie de faire un livre avec lui à un moment, mais il est mort plus rapidement que prévu.
Bon, un âge quand même avancé, il avait 89 ans, je crois.
Il avait, oui, 89 ans. Et je le croisais presque tous les jours, pour rien vous cacher. Quand j'allais à la radio, j'arrivais d'Ostwald à vélo, j'avais fait 7-8 kilomètres, et il allait acheter son pain au quai de Turckheim, mais il arrivait aussi à vélo. Et alors on échangeait quelques mots, on se faisait à la bise. Souvent il s'était levé déjà très tôt et avec son vélo était allé apporter à manger, à boire et de l'argent aussi à des gens pauvres qui étaient parqués dans des caravanes ou qui dormaient dehors. Il a fait énormément de bien, il allait aussi à Haute-Pierre, quand il savait que des personnes étaient en fin de vie, il s'y rendait avec son vélo pour leur apporter une consolation dans les derniers instants. Et donc c'était super, ça me manque toujours encore de ne plus le voir, et je passe souvent quai de Turckheim, et à chaque fois je me dis c'est là que j'ai rencontré, que je croisais René-Xavier le matin.
Il transpirait l'humanité.
C'est ça. Il transpirait l'humanité et tout le monde l'aimait, les hommes, les femmes, les instituteurs, les pauvres, les étrangers. Il a beaucoup fait pour la communauté turque. Je crois qu'il était plus de 40 fois en Turquie aussi. Quel homme, et qui n'était pas accroché à sa religion catholique. Il était ouvert à toutes les religions. Et même pour se faire appeler le pape, quand même, qui est des représentants de la religion orthodoxe, je trouve que c'est déjà une très belle ouverture d'esprit.
Et cela figure sur l'épitaphe qui se trouve sur sa sépulture à Ipsheim.
Oui.
Je voudrais qu'au terme de cet entretien, Simone, vous puissiez lire un autre extrait de votre livre, c'est page 123, Images de plénitude.
Je vois ce saule têtard en déclin, en fin de vie, et pourtant encore si vivant. L'arbre est affaibli, mais il reste debout. Du lierre s'était lancé sur son tronc pour s'y agripper, et de la mousse tapisse ses racines. Je vois cet arbre en fin de vie et je devine qu'à l'intérieur de son tronc, le bois est en train de se désagréger, de prendre de bonnes odeurs de terreau. Pourtant, il semble si plein de vie avec ce lierre qui l'enlace, qui lui prend de la force, mais qui semble aussi lui en donner avec sa verdeur. Une mousse douce s'épanche à ses pieds. Il y a là une image de justesse, une image qui me touche tant que je voudrais être ce vieux tronc de saule têtard avec cette végétation et cette mousse qui se colle à lui. Je vois là un tableau très juste, une image qui me correspond tout à fait en l'instant. Si je le pouvais, je voudrais me transformer en cela et être simplement cela. Il me semble qu'en étant un tronc en décomposition, gorgé de terreau, couvert d'un manteau de verdure, j'aurais atteint la plénitude.
Merci beaucoup, Simone. C'était très touchant que de vous entendre lire un extrait de votre livre. Je rappelle le titre, « Cœur qui bat, hymne à la vie. C'est un livre plein d'espoir qui est publié aux éditions La Nuée Bleue. Nous allons marquer une nouvelle pause musicale avec toujours Marie Laforêt avant de retrouver Aline Voineau pour son roman historique Mathilde, Juliette, Bonaparte et les autres. Nous écoutons Lili Marlène, titre de 1972.
Quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui, c'est dans ce coin-là que le soir il attendait rempli d'espoir. Lili, Lili Marlène, Lili, Lili Marlène. Sombre, leurs corps enlacés ne faisaient qu'une ombre quand tous deux s'embrassaient. Une joie douce illuminait tes grands yeux clairs quand ils disaient Lili, Lili, Marlène. Le temps passe vite quand on est heureux. Il faut qu'on se quitte à l'heure de couvre-feu. Te souviens-tu de tes regrets lorsque sa voix te murmurait adieu, Lili Marlène. Souvenance de ce lointain printemps, pour t'avoir fait cette chanson, le monde entier connaît ton nom. Lili, Lili Marlène, Lili, Lili Marlène. Derrière la caserne, quand le jour s'enfuit,
Aline Voineau, bonjour. Vous publiez aux éditions De Boré dans la collection Vent d'Histoire, Mathilde, Juliette, Bonaparte et les autres, romans historiques très documentés qui nous plongent dans la période du consulat, c'est-à-dire celle qui va du coup d'État du 18 Brumaire en novembre 1799 jusqu'à la proclamation de l'Empire au mois de mai 1804. C'est une période fondatrice et particulièrement créative que le consulat.
Exactement. Exactement. C'est le bouillonnement de la France quand ils ont eu à la reconstruire, parce qu'en fait, la Révolution avait quand même un peu tout renversé. Le Directoire n'était pas vraiment arrivé à stopper cette vague de destruction qu'avait fait la Révolution, et le consulat est là pour le reconstruire.
Alors, il y a une galerie de portraits que vous mettez en scène dans ce roman, quelques figures féminines, et en particulier Madame Récamier, mais aussi Germaine de Staël, qui n'est autre que la fille de Necker, l'ancien ministre de Louis XVI.
Oui, c'est sa fille unique, donc elle a été choyée, je dirais que c'est des enfants qui étaient un petit peu gâtés, avec un petit côté princesse, c'est-à-dire que le monde tournait pas mal autour d'elle, mais c'était une intellectuelle. Elle avait pu profiter du salon de sa mère, Madame de Necker, et du coup, elle a pu côtoyer Rousseau et tout ceux qui, D'Alembert, tout ceux qui tournaient autour de à cette période. Et c'est vrai que Germaine de Staël, l'histoire lui a pas forcément rendu énormément gloire parce qu'elle avait beaucoup écrit et on l'a peu étudiée. En tout cas, moi, je l'avais jamais étudiée en classe et du coup, elle est passée un peu inaperçue alors que, elle a fait tourner un petit peu en bourrique Napoléon à plusieurs moments parce qu'elle était la maîtresse de Benjamin Constant qui était un opposant politique de Napoléon, donc tous les deux ne s'entendaient pas très bien. Je parle de Napoléon et de Germaine de Staël.
Oui, mais au début, on a le sentiment que Germaine de Staël est fascinée par ce jeune général corse qui s'empare du pouvoir. Et on a le sentiment que c'est une admiration déçue et que c'est cette déception qui va la confiner dans le rôle d'opposante qui sera le sien au moment de l'Empire.
Oui, je pense que il y a de ça, mais je pense que c'est assez complexe leur relation. Je pense que Germaine de Staël aurait aimé briller aux yeux de Napoléon. Elle a essayé de se faire briller, enfin de l'approcher et de le séduire, et elle n'y est pas arrivée parce que Napoléon, je pense, n'aimait pas trop les femmes intellectuelles. Je pense qu'il aimait bien les femmes au foyer, les femmes qui appartenaient à leur mari et qui, du coup,
dans l'esprit du code civil.
Voilà, exactement. Vous y connaissez bien, je vois. Exactement.
Alors, l'autre figure importante de votre roman, c'est Madame Récamier, qui est connue, elle aussi, pour le salon qu'elle animait à Paris et les écrits qu'elle a laissés, qui constituent un témoignage très intéressant de cette époque.
Oui, ses correspondances sont vraiment intéressantes à lire parce qu'elle raconte au jour le jour ce qu'elle faisait, les personnages qu'elle rencontrait. D'ailleurs, il y a plusieurs femmes qui ont eu une correspondance comme ça qui était intéressante, soit leur correspondance, soit leur mémoire. La duchesse d'Abrantès, la comtesse de Boigne et Juliette Récamier. Et Juliette
la duchesse d'Abrantès, c'est l'épouse du général Junot qui va se distinguer dans la péninsule ibérique.
Exactement. Et vous êtes un fin connaisseur de Napoléon, je vois.
Oh, je connais bien cette époque, oui.
Je vois. Exactement. Et ça a été aussi la maîtresse de Balzac qui lui a manifestement appris à écrire. Je pense que les premiers tomes de ses mémoires ont été largement rédigés par Balzac. Donc c'était assez amusant. Balzac qui avait plusieurs maîtresses qui s'appelaient toutes Laure et donc elle s'appelle Laure d'Abrantès. Voilà, c'est une anecdote amusante.
Alors, Madame Récamier a un mari, Jacques Rose, qui est l'un des fondateurs de la Banque de France.
Voilà, c'était le 9e régent de la Banque de France, qui malheureusement finira par faire faillite à un moment donné, et qui donc se retirera du monde des affaires, après deux faillites d'ailleurs. Et donc, il y avait une grande différence d'âge entre Juliette Récamier et Monsieur Récamier. On peut même dire que Monsieur Récamier était l'amant de la mère de Juliette initialement, avant d'épouser la fille, plus pour des raisons d'héritage que de réel amour, je pense.
Dans votre roman, Aline Voineau, vous faites référence à un événement important de cette période du consulat qui a bien failli coûter la vie au premier consul Napoléon Bonaparte. C'est l'attentat de la rue Saint-Nicaise à Paris. Nous sommes à la Noël 1800.
Exactement. Ils se rendaient à l'opéra et ils étaient dans deux avec Joséphine dans deux carrosses l'un suivant l'autre et la bombe a explosé entre les deux, donc ils sont tous les deux sortis au grand dam des opposants royalistes de l'époque, parce qu'on peut attribuer, je pense, ces attentats aux royalistes qui voulaient remettre le futur Louis XVIII sur le trône.
Et en 1802, Napoléon fait un pas supplémentaire vers le régime monarchique puisqu'il proclame le consulat à vie. Jusqu'alors, il est premier consul, il a à ses côtés deux autres consuls, dont Cambacérès, dont nous allons parler dans un instant. Mais en 1802, il préfigure ce que deviendra deux ans plus tard l'Empire, en imposant un régime monarchique fondé sur une quasi-hérédité, puisqu'il a la possibilité de choisir son successeur.
Et oui, la possibilité de choisir son successeur à défaut de prendre son fils, puisqu'il n'en a pas encore de fils reconnu officiel, hein, puisqu'il a eu des fils, mais qu'il n'a pas eu avec Joséphine, mais avec certaines de ses maîtresses. Mais c'est surtout s'il a voulu faire ce consul à vie dans un premier temps, il était tellement soumis à des risques d'attentats, il craignait en fait que si un attentat le renversait ou l'éliminait, tout ce qu'il avait créé depuis le début du consulat retombe aux oubliettes. Et donc c'était une façon de pouvoir faire perdurer sa politique. Et donc il avait tenu à faire cette première étape qui était un consulat à vie, chose pourquoi ses opposants étaient farouchement contre, parce que tous disaient on n'a pas fait une révolution pour que de nouveau on ait un seul homme au pouvoir. Mais c'est vrai que le directoire où ils étaient cinq n'avait pas réussi à remettre de l'ordre dans le pays. Donc était-ce un mal nécessaire de repasser par cette forme de monocratie? Je ne sais pas, c'est pas à moi. De toute façon, moi je ne suis pas historienne, hein. Je suis romancière, mais pas historienne. Donc je ne jugerai pas ces faits-là, voilà.
Mais vous semblez tout à fait passionnée par cette époque.
Oui, j'adore l'époque de Napoléon, mais parce que je ne la connaissais pas au départ. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je n'ai jamais étudié Napoléon à l'école. Il se trouve que je suis née dans les années 67, donc 1967, et en 1966, il y a eu la réforme ABI, la réforme des collèges, où le programme d'histoire a complètement changé. On n'apprenait plus l'histoire de façon chronologique, et donc Napoléon...
On a fait pire depuis, hein, je vous rassure.
Si vous le dites, oui. Et on les apprenait sous forme d'empire. Donc c'était l'Empire romain et l'Empire napoléonien. Et en fait, donc c'était en sixième et en seconde, on faisait deux fois la même chose. Et moi, j'ai fait deux fois seulement l'Empire romain, et on a fait que la moitié du programme, et donc je n'avais jamais étudié Napoléon. Et je me disais quand même, je suis française et je n'ai jamais appris Napoléon en histoire. Je trouve que c'est dommage, parce que même si on peut trouver des choses qui peuvent être controversées sous le règne de Napoléon Ier, il a été fondateur de notre société aujourd'hui.
Donc vous avez à travers ce roman historique une sorte de session de rattrapage.
Voilà, c'est un peu apprendre l'histoire autrement, de façon assez ludique. On peut le lire au bord de la plage comme plus sérieusement à son bureau. J'ai voulu rendre sous forme de roman, avec une multitude d'anecdotes, cet apprentissage de l'histoire facile et agréable.
Aline Voineau, il y a un personnage tout à fait remarquable dans votre roman, Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Alors Cambacérès, il va être en quelque sorte le fil rouge de la période napoléonienne. Il débute sa carrière politique sous la Révolution. Il est l'un des cinq directeur du directoire. C'est une époque où la fonction de chef de l'État est collégiale. Ce sera la seule fois dans l'histoire des institutions françaises. Il sera ensuite l'un des trois consuls du début du directoire, du consulat. Et on le retrouvera sous l'Empire avec la fonction d'archi-chancelier de l'Empire. Autrement dit, il est le numéro 2 il est promis à remplacer, si nécessaire, l'empereur lors de ses absences.
Voilà, oui, Cambacérès, en fait, était un homme de droit. Alors, de mémoire, je ne crois pas qu'il était directeur du directoire. Hein. Il était jurisconsulte et Napoléon l'a appelé, il était député, député montagnard, et Napoléon l'a appelé au pouvoir lorsqu'il est devenu consul. Donc il était le second consul, Lebrun était le troisième. Il était plus en charge de toute la partie juridique, et donc à la mise en place du code civil qu'ils voulaient mettre en place déjà depuis pas mal de temps. Il n'y était pas arrivé au moment du directoire et c'est Napoléon qui l'a permis d'ailleurs très rapidement. Encore une fois, avec son leadership et son autorité naturelle, il est arrivé à pouvoir faire que ce code civil puisse être enfin mis en place. Et donc, de Cambacérès était le coordinateur de la mise en place de ce code civil.
Alors c'est un homme précieux parce que il n'a pas véritablement d'ambition politique, il ne fera pas d'ombre à Napoléon, mais c'est un travailleur acharné.
Voilà, je pense que c'était un travailleur, comme vous dites, acharné. Je pense qu'il était très admiratif de Napoléon. Plus âgé que lui, il était écouté par Napoléon, ce qui n'était pas... Et je pense qu'il osait dire à Napoléon un certain nombre de choses que d'autres... caché pour leur propre intérêt, Cambacérès n'avait pas cette optique-là. Comme vous dites, il n'avait pas d'ambition politique vraiment, il voulait servir la France et donc aider Napoléon à faire au mieux en apportant sa partie à lui, qui était une partie plus juridique, Lebrun était plus financier.
Alors, finalement, il va épouser dans votre roman Mathilde, qui est la personnage primordial de la narration, alors même qu'il est notoirement attiré par les hommes.
Voilà. Alors là, vous dévoilez la chute. Mais oui, en fait, Cambacérès était effectivement plus attiré par la gente masculine. Et cela gênait Napoléon parce qu'il voulait aussi remettre un petit peu d'ordre au niveau des mœurs. Et donc, il avait réellement demandé à Cambacérès de s'afficher avec une femme, qui était une femme comédien, qui était elle-même homosexuelle. C'était sa compagne officielle. Mais voilà, c'est la seule chose qui a été modifiée dans mon livre, c'est-à-dire que Mathilde est le seul personnage fictif du livre. Tout ce qui arrive à Mathilde est romancé et tout le reste est vrai, un tant soit peu que tous les mémoires que j'ai lues ont raconté la vérité. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas parce que parfois, par rapport à une même situation, j'avais trois options à choisir. Donc, les choses ont parfois été un petit peu romancées, mais globalement, les choses se sont bien passées telles qu'elles ont été décrites dans Mathilde, Juliette, Bonaparte et les autres.
C'est à Cambacérès que nous devons une législation relativement libérale à propos de l'homosexualité en France jusqu'au régime du maréchal Pétain.
Exactement. Étant donné, comme disait Madame de Staël, nous ne sommes jamais mieux servis que par nous-mêmes. Le fait que Cambacérès s'occupait de la coordination et de la rédaction du code civil, il a fait en sorte que l'homosexualité ne soit pas un délit. Et cela ne l'a pas été jusqu'à l'arrivée de Pétain, où c'est rentré à nouveau et a été à nouveau considéré comme un délit. Voilà, donc c'est vrai que c'est grâce à Cambacérès que nous devons cette liberté-là.
Dernière question, Aline Voineau, comment écrivez-vous ?
Ouf, comment est-ce que j'écris ?
C'est toujours intéressant de percer un peu le secret des habitudes d'écriture des auteurs.
Quand on écrit un roman historique, puisque là il s'agit de cela, on écrit déjà différemment que quand on écrit un roman qui n'est pas un roman historique, en tout cas pour moi, je ne parlerai que de moi. Un roman historique, moi j'ai d'abord beaucoup lu et je me suis beaucoup documentée sur la période puisque c'est une période que je n'avais pas étudiée, donc j'ai vraiment lu à peu près 200 mémoires. Pour vous dire, j'ai vraiment travaillé sur romans ou ouvrages, hein. J'en ai lu certains récents, il y a des auteurs incontournables comme Thierry Lenz, comme Emmanuel de Varesquiel, comme Jean Becker, etc.
Jean Tullard.
Oui, Monsieur Tullard, bien entendu, c'est le premier au départ par qui j'ai commencé. Et puis j'ai lu beaucoup de mémoires d'époque que j'ai trouvées dans des archives d'universités françaises et américaines. Et du coup, c'est très simple de pouvoir trouver ces ouvrages et de les lire. J'ai lu également tous les livres dont j'ai parlé, de la comtesse de Boigne, d'Abrantès et de la correspondance de Juliette Récamier, Chateaubriand également, qui est de cette époque et qui, avec ses mémoires d'outre-tombe, relate bien aussi la période. Voilà, et donc une fois que j'ai lu et que j'ai eu une idée de l'histoire, j'avais une méthode où je travaillais le matin, je lisais le matin et j'écrivais l'après-midi. Voilà, et mon idée était d'écrire un chapitre par semaine. Voilà, c'était donc ma façon de faire et de travailler. Et ensuite, comme je n'étais pas écrivain au départ, puisque je suis pharmacien de formation, j'ai...
Un très noble métier.
Métier d'apothicaire. Et j'ai suivi des cours après, parce que j'ai fait d'abord un premier envoi à des éditeurs, où on m'a dit qu'il fallait on m'a dit ce qui était bien, ce qui était à retravailler. Il fallait que je réécrive la narration. Les dialogues étaient très bien, mais la narration pouvait être améliorée. Et donc, j'ai suivi ce qu'on appelle les masterclass de The Artist Academy. J'ai fait les concours qui vont avec, et puis j'ai gagné les concours. Enfin, disons que j'ai été publiée. Il y a une dizaine de lauréats qui sont publiés, et ça m'a amenée vers un agent qui m'a ensuite trouvé un éditeur. Voilà comment se sont passées les choses.
Et donc, vous avez pour projet de poursuivre dans cette lancée de l'écriture ?
Voilà. Alors, le tome 1, c'est celui qui sort aujourd'hui, Mathilde, Juliette, Bonaparte et les autres. Le tome 2 est déjà écrit. Et ça sera un petit peu en fonction du succès du tome 1 que le tome 2 sera publié et que le tome 3 sera préparé.
Ben j'espère vous recevoir à d'autres occasions au micro de Radio Judaïka dans l'émission Passé, présent. Merci beaucoup, Aline
Merci
Boineau.
Beaucoup,
je rappelle le titre de votre roman historique, Mathilde, Juliette, Bonaparte et les autres. C'est publié aux éditions de Boré dans la collection Vent d'Histoire. Merci. Avant de refermer cette émission, je voudrais signaler la parution d'un fascicule de poésie intitulé « J'embrasse des espaces ». L'auteur est David Schnee, que j'avais eu l'occasion de recevoir l'année dernière pour d'autres travaux d'écriture. Il est le fils de l'ancien maire d'Erstein, mais il est installé aujourd'hui à Bordeaux pour les besoins de son activité professionnelle. Et c'est une maison d'édition bordelaise, les éditions Nouvelles Traces, qui édite cet ouvrage, un ouvrage très touchant, avec un rapport tout à fait singulier à la nature en particulier. Voilà, je voulais vous recommander sa lecture. J'embrasse des espaces, c'est signé David Schnee, que je salue. Au passage, merci à Thomas qui a réalisé cette émission, et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Marie Laforêt. Nous écoutons un titre de 1963, Les Vendanges de l'amour.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain, les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain, les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui, je sais que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui, ce soir tu ressembles à l'amour. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain, les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. La 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 la.
Thank you.